On jase vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté.
Bon midi, bienvenue à On jase, édition du jeudi 14 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous retrouver, que ce soit à la télé ou sur le web, sur rds.ca ou Facebook Live. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver au lendemain de ce premier match de la saison du Canadien, défaite face aux Leafs. Mais on remet ça dès ce soir du côté de Buffalo. Mon partenaire de lunch est là, Martin Lemay. Comment vas-tu?
Je vais très bien. Bon match hier, un match âprement disputé pour un premier. Ouais. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est terminé 2-1. Le Canadien a eu ses chances, n'a pas été capable d'en profiter. En début de match, Jack Campbell a été excellent, et surtout ce 5-3. Je suis certain qu'on va y revenir dans quelques instants, autant avec Guy Boucher qu'avec Karel Lemar. D'ailleurs, on va aller rejoindre Guy dans quelques instants. Mais qu'est-ce que tu dirais qu'on parle d'un joueur qu'on va surveiller ce soir?
Ben oui! Tu veux nous parler de joueur électrisant?
Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
Je pense, Martin, qu'avant de parler de celui qu'on va surveiller ce soir, on pourrait peut-être revenir sur celui qu'on voulait surveiller hier. Tu voulais avoir un œil sur Nick Suzuki.
Ouais, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. C'était... pas été chic le trio de Nick Suzuki hier. J'ai pas été vraiment sur le bout de mon siège. Les niveaux des mises en jeu, surtout, ça a été pour moi un gros problème. Faut que tu commences avec la rondelle si tu veux connaître du succès. Et hier, le Canadien en général, là, on voit les chiffres de Suzuki, mais Jake Evans également, ça a été moins 1000. Le seul qui a connu du succès, c'est peut-être pour ça que le trio de Dvorak a été le meilleur hier. C'est Dvorak qui a été bon au cercle des mises en jeu. Je n'ai pas trouvé le Canadien avec Suzuki, Toffoli et Caulfield très menaçant. Mais...
Hop! Bon, on vient de perdre Martin. Alors, il disait effectivement que le trio de Suzuki n'a pas été le plus électrisant hier, mais c'est le joueur qu'on avait ciblé. Vous avez vu les statistiques. Ce soir, s'il n'y a pas de changement, Martin, je pense que tu es de retour. On va être en mesure de surveiller le gardien Samuel Montembeau, si c'est lui qui est là, évidemment, ce soir.
Oui, mais là, sur la glace, Montembeau est là. Donc, est-ce qu'il est là? Il est là avec les réservistes. On sait que les joueurs du Canadien n'avaient pas d'entraînement ce matin. Donc, Sami Nikou, Brooks sont sur la glace. Donc, est-ce que Montembeau est là pour prendre quelques lancers parce qu'il sera là ce soir, ou il est là parce qu'il ne jouera pas et que ce sera exactement la même formation qu'hier? Dossier à suivre. Aussitôt qu'on a les informations, on va vous tenir au courant. Je ne sais pas si on s'était préparé un plan B si jamais Montembeau n'était pas de la formation. Oui. Donc, je pense qu'on va suivre Dvorak ce soir. Montembeau sera partant. Fait qu'on va... Ça vient d'être confirmé.
C'est confirmé.
Montembeau sera le gardien. Fait qu'on va surveiller Montembeau ce soir. Donc, comme je le disais, il était sur la patinoire pour prendre les lancers pour se préparer en vue de son match de ce soir. Donc, ça prend une grosse performance. Hier, Jake Allen, on a bousillé un de ses bons départs avec une défaite. Donc, voyons voir si Samuel Montembeau, qui va affronter Greg Anderson, pourra faire ce soir. Donc, c'est le joueur qu'on va surveiller, le joueur électrisant qu'on va surveiller.
Le clash des générations ce soir. Anderson d'un côté et Montembeau de l'autre. Il doit y avoir 15 ans de différence entre les deux, au moins.
Ah, minimum. Je pense qu'Anderson a déjà 40.
Bon, tu vois, ben c'est ça. On est pas mal là. Montembeau, c'est quoi? C'est 24? 24 ans?
24, Montembeau, oui.
Bon, fait que tu vois, ça va être intéressant. Mais on va en parler, puis un qui connaît bien Anderson aussi, c'est Guy. Et je pense que Guy Boucher est en mesure de nous retrouver. Salut le coach!
Salut messieurs, bonne journée.
Puis Guy, coach, es-tu satisfait après un match comme celui d'hier, quand il faut prendre en considération que c'est le premier de l'année? Là?
Oui, mais là tu me parles de quel coach?
De mettons coach du charme.
Oui, parce qu'il y en avait deux hier. Un, le mot satisfait, oublie ça. Tu n'es jamais satisfait. Même quand tu gagnes 6-1, là, tu vas être content de certaines phases de jeu, tu vas être content de certains individus, mais tu n'es jamais satisfait de tout, de tout le monde. Satisfait, là, c'est quand tu as la Coupe cette année des mains. C'est tout. Le reste du temps, tu es content ou pas content de certains aspects. Fait que, moi, quand je regarde le match, les deux équipes pour un premier match, moi, je trouvais que c'était bon parce que ça pourrait être, aurait pu être beaucoup plus erratique que ça. C'est sûr que tu as des individus qui étaient meilleurs que d'autres, mais en général, moi, je pense que pour un premier match, autant pour Toronto que pour Montréal, il y avait des bonnes choses.
Ben, parlons-en des bonnes choses. Si on y va un peu plus spécifique, Guy, je vais te demander pour les deux équipes. Tiens, je commence avec le Canadien, puis ensuite les Leafs. C'est quoi tes points positifs? Qu'est-ce que tu as aimé dans la rencontre d'hier, là, du côté du Canadien, puis ensuite du côté de Toronto?
Ouais, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont très axés sur l'échec avant et tout ça. Là. Fait que je pense pas que le Canadien a mal fait ce chapitre-là. Au contraire, je pense que le Canadien avait plusieurs opportunités de mettre la pression, ce qu'ils ont pu faire avec les défenseurs. Mais est-ce qu'ils vont être capables de faire ça sur une longue période quand les équipes s'en attendent? Je suis pas certain qu'ils ont le personnel pour faire ça. Autant à l'attaque qu'à la défensive. Alors, le temps va le démontrer, là, dépendamment aussi qui revient au jeu et qui ne revient pas au jeu, mais les attaquants étaient extrêmement impliqués dans plusieurs phases, l'échec avant, puis le défenseur aussi. Mais évidemment, le troisième homme n'était pas toujours discipliné, ce qui va arriver dans des équipes où soit tu as des nouveaux joueurs, soit tu as des joueurs jeunes, tu as des gars qui vont prendre des fois des mauvaises décisions, ou le défenseur prend de mauvaises décisions. Alors, on s'est fait prendre quelques fois, mais c'est normal. C'était mieux que j'aurais pensé pour un premier match. Mais comme je dis, pour moi, je pense pas qu'il y avait un manque d'effort du tout. Je pense pas qu'il y avait un manque de pression, tout ça, mais c'est beaucoup plus des prises de décision sur comment lire combien de joueurs sont déjà impliqués dans ton échec avant. T'sais, c'est beau, l'échec avant. Là, souvent, c'est la solution de tout le monde. Là. On forward check. Mais oui, mais là, on est rendu 3 puis 4. Là. Fait que, t'sais, ça dépend de qu'est-ce que l'adversaire est en train de faire en sortie de zone. Mais là-dessus, ça a bien été. J'ai aimé la zone neutre des deux équipes sans la rondelle. Avec la rondelle, tu as quand même eu plusieurs revirements, ce qui est typique des débuts d'année, mais en zone neutre, j'ai trouvé que le Canadien fait un 1-1-3. J'ai trouvé qu'il était assez hermétique là-dessus. Puis de l'autre côté, ce qu'on appelle un 1-2-2 flat, là, un 2-2 flat. Toronto a changé sa zone neutre. Les deux côtés, je pense, étaient très bons là-dessus. Mais l'avantage numérique, j'ai beaucoup plus aimé l'avantage numérique de Toronto que celui de Montréal, parce que celui de Toronto était à l'intérieur des points mis au jeu. Tandis que celui de Montréal avait, à quelques reprises, oui, mais en grande majorité, avait quatre joueurs à plus haut que le point de mise au jeu et à l'extérieur des points de mise au jeu, ce qui fait que souvent, c'est pas
même
trop...
Même dos au jeu.
Ben oui. Souvent, c'est ce qui fait que toi, tu es en avantage numérique, mais tu ne l'es pas. L'endroit où 80% ou plus des buts sont marqués, c'est à l'intérieur des points de mise au jeu. Et en bas des points de mise au jeu. Et c'est là qu'il faut que tu sois en avantage numérique. Même si t'es 5 puis ils sont 4, si en bout de ligne, c'est sont 3 ou 4 eux autres à l'intérieur de ça, puis toi t'es 1 ou 2, bien c'est toi qui es en désavantage numérique. Et c'est ce que j'ai vu comme grosse différence entre les deux équipes. Là. Pour ça aussi qu'il y en a un qui a marqué un but, il aurait pu en marquer d'autres, Toronto, mais. Le Canadien, mais je pense que le Canadien a beaucoup d'outils pour faire un bon avantage numérique. Ça c'est clair. Avec plusieurs droitiers qui ont des menaces immédiates, avec des gars qui sont capables de faire des jeux, avoir de la fausse information et tout ça. Alors, je pense que ça devrait être une grande force du Canadien cette année.
Je voulais en parler plus tard de l'avantage numérique, mais allons-y. À ce temps-ci de l'année, le 5 contre 3, quand tu sors du camp d'entraînement, tu l'as-tu pratiqué? Parce que c'est un pitié, Dominique Ducharme l'avoue aussi après le match. Là. C'est un peu là que ça s'est joué.
Bien, ça dépend de ce que tu as choisi comme entraîneur. Comme staff, qu'est-ce que tu as choisi comme camp d'entraînement? Qu'est-ce que tu as choisi d'allouer de temps à ça dans tes combinaisons? Combien, tu sais, est-ce que tu as. C'est pour ça que je le dis depuis le début du camp, pas ce camp-là, dans tous les camps, c'est toujours la même chose. Tu arrives, la saison commence, là, puis plus tu as pris de temps avec tes recrues, tes gars qui font pas le club, plus tu as fait ça, ben moins tu as eu de temps pour pratiquer tes phases de jeu avec, avec tes vrais joueurs, avec ceux qui sont sur ton vrai avantage numérique à 5 contre 4, ton vrai avantage numérique à 5 contre 3, tes vraies combinaisons de lignes, tes vraies combinaisons de défenseurs. Alors, plus tu as eu de répétition...
As-tu le temps de te toucher dans un camp d'entraînement d'habitude?
Non. Non. Okay. Non, c'est pour ça que pour moi, avec le temps, j'ai appris, il y a une grande urgence à se dépêcher. Moi, je me rappelle, j'allais tout de suite faire mon avantage numérique, même à mon premier à Tempa, il n'y avait jamais vu ça. Première journée, j'avais pris une demi-heure d'un côté avec Stamkos, Saint-Louis, Le Cavalier, Holland et tout ça, tous les gars qui étaient sur mon premier avantage numérique. J'avais passé une demi-heure avec eux plutôt que de les avoir avec les autres joueurs dans le camp. Parce que pour moi, c'est toujours le problème. Tu n'as jamais assez de temps. Tu as trop de monde, puis tu n'as pas assez de temps. Puis étant donné que tu as beaucoup de monde, puis tu veux donner des chances à certains individus, ben tu les mets dans des situations où tu veux les voir eux. Par contre, quand la saison commence, ils ne sont plus là. Fait que tu sais, tu es toujours pris entre voir les nouveaux, satisfaire les recruteurs, satisfaire le gérant, puis tout ça, puis te préparer vraiment pour ta saison. Et c'est ce jonglage-là qui est un problème. Parce que si tu avais ton équipe à 2-3 joueurs près avec les gars, les seuls gars qui peuvent vraiment faire ton équipe, ben c'est sûr que tu avances beaucoup plus vite. Alors, c'est pour ça que moi, tous les camps dans toutes les ligues, plus tu avances vite, plus tu tasses ton monde pour utiliser le vrai monde, là, ben plus tu as un bon début de saison. Quand j'ai, moi, personnellement, ou l'organisation a pris des choix de donner du temps pour voir le nouveau monde, parce que tu sais, le nouveau monde, les jeunes, puis tout ça, c'est des nouveaux cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. Là. C'est bien excitant, mais quand t'arrives la saison, après ça, tu le regrettes parce qu'il t'a manqué de temps. Fait que tu sais, c'est pas parce que tu l'expliques sur le tableau que tu vas être sharp. Là. Il faut que tu aies de la répétition, beaucoup de répétition avec le bon monde, parce que tu as des gauchers, tu as des droitiers, tu as des gars qui ont des tendances. Alors, c'est toute une question d'exécution, donc c'est des fractions de secondes que tu as gagné ou tu as perdu dans ta préparation. Alors, je sais pas, j'étais pas là avec le Canadien. J'ai pas vu combien de temps, j'étais pas dans les estrades, là. Je sais pas combien de temps ils ont passé là-dessus, avec qui et quoi. C'est juste qu'en général, c'est le problème des camps d'entraînement. Tout le monde veut voir le nouveau, tout le monde veut voir les gars qui se sont développés dans la ligne américaine et tout ça. Puis même quand t'as aucune place dans ton alignement, mais tu prends du temps avec ces gars-là, mais là, c'est sûr que t'as l'envers de la médaille. T'as vu? Sauf qu'après ça, tu n'as pas eu assez de temps pour être sharp pour commencer ton année dans certaines phases de jeu.
Guy, il y a plusieurs personnes qui commentent, évidemment, que ce soit sur Facebook ou RDS.ca. Salutations à Jérémy Veilleux, Sébastien Tremblay, Nat Lebuis, Jeannot Chandonnet, Pierre Lalonde, Steve Bradette. Il y a Jonathan Proulx qui parle de l'avantage numérique et qui souhaite le retour rapide de Mike Hoffman. Jérémy Veilleux qui parle aussi de ça. Daniel Franqueur qui dit Anderson doit jouer avec Suzuki et Caulfield. Il y en a plusieurs qui parlent de la défensive. Puis il y a France Brassard qui te demande, Guy, que tu nous parles un peu des duos. Hier, la grande question, c'était pourquoi on met Romanov et Weidman ensemble. Et elle te demande la question, puis elle te demande également ton appréciation de Brett Kulak hier.
Kulak, c'est Kulak. C'est pas... il est ce qu'il est. Je pense que c'est un gars qui est assez constant, qui est capable. Il joue dans ses limites. Ce qui fait que c'est pour ça que sur une courte période de temps, il a été appelé à jouer des rôles sur toutes les paires. C'est même la première paire. Et c'est là que lui, c'est quand même quelqu'un d'assez versatile, dans le sens que pas à cause qu'il y a beaucoup d'atouts, mais il se tient à ses limites, donc tu sais ce que tu vas avoir. Au contraire, ben, Weidman et Romanov, parce qu'il est jeune, a besoin de calmer sa game, a besoin de lire avant de se lancer tout le temps. C'est correct de se lancer, moi je l'aime, comme je le dis, j'aime toujours mieux un cheval que tu dois retenir qu'un cheval que tu dois botter dans le derrière. Alors, lui, c'est un cheval que tu dois retenir dans certaines phases de jeu pour pouvoir lire. Et je me rappelle, quand j'avais Hedman, c'était un peu la même chose. Hedman voulait y aller, autant offensivement que défensivement. Tu sais, je l'avais à 19 puis à 20 ans. Il n'est pas le joueur qui est aujourd'hui, là, mais loin de là. Alors, ça prend du temps. Les défenseurs là, rentrent vraiment dans ce qu'ils vont être pour vrai à 24, 25, 26, 27 ans. Là. C'est beaucoup plus long. Alors, ce qui fait que quand tu les mets dans une situation où c'est eux qui doivent mener une paire, ben là, oublie ça, là. Alors, un Romanov avec Weidman, tu vas accentuer, évidemment, les faiblesses de Romanov et tu protégeras pas Weidman. Weidman est plus vieux avec l'expérience, mais Weidman n'a jamais prouvé encore que c'est un joueur de la Ligue nationale. Alors, tu sais, c'est plus un genre de septième spécialiste du deuxième avantage numérique qui est à 5 contre 5 a des grandes lacunes. Alors, là, c'est sûr que si tu mets les deux ensemble. Par contre, c'est beau de les séparer, mais des fois, t'es mieux d'avoir deux paires qui sont capables de se débrouiller contre l'adversaire que d'en avoir trois faibles. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. C'est ce jeu-là. À un moment donné, durant le match, tu vas t'en apercevoir. OK, ça n'a pas de bon sens. Quand t'es à la maison, c'est une grosse, grosse différence. Parce qu'à la maison, tu sais, tu peux attendre que ce soit la troisième ligne, la quatrième ligne. Normalement, moi, un duo comme ça, j'aime ça séparer ça dans le sens que, surtout un premier match où les joueurs sont en grande forme, ce que tu peux faire, c'est que tu joues ton top 4 et puis ta troisième paire, tu les mets une fois ensemble, mais après ça, tu les sépares. Tu vas le mettre Romanov une fois avec Petrie, puis après ça, oups, là, tu vas mettre le Kulak avec Whiteman, puis là, tu vas revenir avec ton autre paire, puis plus tard. Alors, tu les envoies rarement ensemble. Et c'est comme ça que sur la route, tu t'en sors justement sans te faire prendre contre les deux meilleures lignes adverses, parce que c'est clair que ces deux gars-là sont pas capables de gérer ça. Là. C'est normal, mais c'est pas une question de blâme. Ils sont ce qu'ils sont. Et Whiteman, c'est pas pour rien que tu es dans la cachette. Là. C'est pas pour rien qu'il n'a pas fait sa place avant ça dans le national. Alors, il a tout approuvé. Et Romanov, il est jeune. Puis ce qui va arriver, là, regarde, je le prédis déjà, on va tomber sa patate à Romanov. Puis on s'attend à ce qu'il soit bon de suite, puis qu'on comprend pas pourquoi il est erratique, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Fait que là, ben, ça se peut bien que cette année, ça soit bien difficile pour lui. Pas parce qu'il est pas bon, mais parce qu'il va avoir de la misère à gérer les attentes. T'sais, l'année passée, je me rappelle très bien, qu'on soit d'un autre angle, qu'on soit dans n'importe quel show, on avait comme commentaire tout le temps, comment ça se fait que Romanov, on l'essaye pas sur la première paire? Comment ça se fait qu'on le met pas dans le top 4? Comment ça se fait qu'on lui donne pas la glace pour pouvoir se faire valoir? Mais c'est pas compliqué. C'est parce que dans les entraînements, puis dans tous les signes qu'on voit sur la glace et hors glace, les entraîneurs, le staff au complet et le gérant, tout ça, on voit très bien que qui est prêt, qui est pas prêt, qui mérite d'avoir un peu de temps de grande qualité, puis ceux que non, parce qu'ils n'ont pas la maturité pour le faire. Parce que ceux qui n'ont pas la maturité pour le faire, t'as beau dire je l'essaye, tu viens de le tuer, parce que tu sais qu'il va se planter. Fait que là, tu veux pas donner une corde pour se pendre à un jeune comme ça. Il y en a qui sont capables. Il y en a, là, regarde, j'ai eu Vlasic. Vlasic, là, à l'âge de 15 ans, là, faisait rien de spécial, il n'y a rien qui flashait, mais il faisait pas d'erreur, il était tout le temps à bonne place. Alors qu'il arrive junior majeur, même chose tout de suite, il est des meilleurs défenseurs. Après, c'est arrivé dans le pro, à 18 ans, il fait la Ligue nationale. Puis moi, j'étais le premier à mettre ça à glace. Un gars comme Couturier, c'est un attaquant, la même chose. Couturier, regarde, il avait 15 ans, puis je le faisais jouer dans le junior contre les meilleurs joueurs. Pourquoi? Ben parce qu'il était capable, il avait la maturité de le faire. Puis il y en a d'autres au même âge, avec peut-être plus de talent, plus de wow. Ben, tu sais, toi, comme entraîneur, ils sont pas capables de gérer ça parce qu'ils sont pas capables de gérer la game encore. Alors, ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu lances quelqu'un qui sait pas nager encore dans l'eau, puis vas-y, débrouille-toi. Alors, tu sais, c'est tout ça. C'est ce jeu-là de qui est mature, qui l'est pas. Tu leur donnes un peu, oups, t'en enlèves, oups, t'es capable d'en donner plus. Alors, c'est ce qui se passe. Puis avec le Canadien, évidemment, sans Weber, sans Manson, on enlève beaucoup de ce qu'on appelle des anchors en anglais, des ancres. Pourquoi on dit des ancres? C'est parce que quand tu plantes ton ancre, là, c'est solide. Ton bateau s'en va pas et il ne dérive pas. Ben alors, Weber et Edmondson, c'est des ancres. Alors, tu viens d'enlever deux ancres, ça veut dire qu'il y a plus de gars qui vont avoir de la misère et qui vont dériver. C'est normal.
Oui, mais ça, c'est long terme. Tu sais, quand même, hier, ça peut être SP. J'ai aimé la game de Romanov. Oui. S'il y en a qui critiquent, tu sais, il a joué troisième paire. On l'a utilisé souvent contre les troisième, quatrième trios de l'autre côté. Honnêtement, j'ai pas trouvé une mauvaise partie. Puis les gens, faut prendre son gaz égal. Romanov a 21 ans. Ça prendra du temps qu'il faut que ça prenne. Peut-être qu'il va être un excellent gars de deuxième paire dans sa carrière. Fait que, puis il va peut-être atteindre ça à 24 ans ou 23 ans. Fait que faut prendre son gaz égal. Je vais te demander quelque chose, par exemple, côté technique défenseur. Sur le deuxième but, il y a changement au banc des Maple Leafs. Tavares longe la ligne bleue et ça attire Kulak, qui, à un moment donné, se rend compte que William Nylander vient de ramasser la rondelle sur le fly, puis il est un peu battu. Tu sais, on voit Kulak qui suit Tavares, puis il se rend compte que la passe est derrière lui, fait qu'il fait un pivot, puis il s'en va vers là. Est-ce qu'on pointe du doigt Kulak dans ce temps-là, ou on pointe du doigt Tavares qui a fait un beau jeu en attirant son adversaire?
Là, j'ai pas très bien compris, Martin, la séquence. Là, tu me parles de la zone offensive de Toronto, du zone défensive du Canada. Ouais,
ben, ça s'est fait, ce but-là. Là, le but de William Nylander, ça s'est fait en zone neutre. Changement. Mitch Marner est allé changer. Nylander, en sautant sur la patinoire, il est parti le long du banc des joueurs. Et c'est Morgan Riley qui l'a repéré avec une passe vive. Mais si on regarde le jeu au ralenti, Kulak n'est pas là parce qu'il a suivi, donc il était bien posté du côté défenseur gauche où ce que William Nylander est rentré. Ouais. Mais il était attiré par Tavares qui walkait le blue line, fait qu'il l'a suivi en pensant que c'était lui qui allait avoir la passe de Morgan Riley. Puis ça a permis à William Nylander de passer. Est-ce qu'on pointe le défenseur ou le gars qui était supposé prendre sa place ou on pointe le beau jeu des Leafs?
Non, on pointe le mauvais changement. C'est un mauvais changement. Tu peux pas changer quand l'adversaire est en transition. Puis ça arrive, là. Écoute, ça, je le montre aux joueurs, je sais pas combien de fois par année. C'est la minute qu'il te manque quelqu'un en couverture en zone neutre, t'es dans le trouble. Tu peux pas, parce que quand l'adversaire est dans le fond de zone, c'est une chose. Mais quand l'adversaire est en transition de zone neutre, tu peux pas débarquer. Puis les joueurs, c'est ce qu'ils font la grande majorité du temps, parce que souvent, t'es en zone défensive. Là, tu es fatigué parce que tu viens d'aller dans la zone offensive, tu es revenu à ta zone, tu es fatigué. Fait que là, les gars, ils s'en viennent au banc alors que. Avant, c'était pas pareil parce que tu pouvais pas faire une passe de deux lignes. Donc, t'avais le problème de la ligne rouge. Maintenant, t'as pas le problème de la ligne rouge. Donc, c'est des transitions immédiates. Ça veut dire qu'une longue passe peut pénétrer très rapidement. Alors, ton changement, il est crucial et mortel. Et ça, là, par année, là, si je te montrais le nombre de buts. Où c'est le changement qui est responsable du but, t'en reviendrais pas. C'est incroyable l'impact de ça. Parce que la minute que toi, t'es pas à ta place, l'autre gars, lui, avait commencé à faire sa job. Le défenseur, lui, sa job, c'est de prendre ce qui passe dans le milieu. Parce que l'autre défenseur, il faut qu'il soit du côté de la rondelle. Ça veut dire que ton côté de largeur, il est pris par, dépendamment de ton système, parce que ça peut être un défenseur, ça peut être un ailier, ça dépend. Tu fais-tu un 3, tu fais-tu un 2-2, tu fais-tu un 2-2 flat, tu fais-tu un 3-1 en zone 1 pour ta couverture en zone 1. Alors, dépendamment, c'est à qui le rôle. Si ce gars-là, il change, bien, il n'est plus là. Mais toi, l'autre en arrière, le défenseur, toi, tu as lu ce que tu es supposé lire. Si tu l'as lu d'avance, puis là, whoop, là, ce qui va arriver, c'est que tu prendras personne. Parce que tu ne peux pas prendre le milieu, tu ne peux pas prendre l'extérieur, tu vas te situer entre les deux parce que ça se peut que ce soit une passe à un ou à l'autre. Je ne sais pas si tu me suis, là. Mais c'est que quand tu fais un changement, il n'est plus là, le gars. Il y a un trou. Il y a 100% un trou quelque part. Puis là, ce qui arrive, c'est que des fois, c'est deux gars qui vont changer en même temps, des fois, c'est trois gars. Puis tu vois les coachs qui s'arrachent les cheveux parce que les coachs vont toujours le dire. Tu sais, c'est. Moi, je te dis, les games, là, les face-offs, les changements, les punitions de bâton, écoute, ça a tellement d'impact dans les matchs que la grande majorité des matchs, là, tu vas regarder, c'est ça qui a déterminé le gagnant puis le perdant. Mais c'est un but faible, ça.
Guy,
c'est un but faible. Si Price avait été là hier, probablement qu'il arrête ce but-là. Puis, tu sais, quand les gens demandent, ah ouais, tu sais, ça ne fait pas nécessairement une différence énorme, mais c'est sa différence entre un vrai numéro un sur une base constante dans ton équipe et un bon deuxième ou c'est un but par game.
Guy, il faut que je t'arrête. Faut juste que je t'arrête pour permettre aux gens à la télé d'aller vers les grands titres. On poursuit sur le web. OK, Guy, tu peux poursuivre. Je suis désolé, là, mais fallait s'arrêter pour les gens à la télé pour la pause. Tu peux poursuivre. Ouais. Et moi, je tiens à mentionner aux gens que vers 12h30, on aura les commentaires de Dominique Ducharme, David Savard et Jake Evans. Avais-tu fini ton point? Veux-tu te lancer sur autre chose ou tu veux compléter ton affirmation?
Ben, c'est parce que pour moi, c'est un très bon lancer, sauf que ça ne peut pas rentrer. Je veux dire, tu es à l'extérieur du point de mise au jeu, tu n'as pas de screen, tu n'as pas rien, c'est short. Ce qu'on appelle un but short side, donc de l'extérieur, pas d'angle. Là-dessus, c'est pas grave que Nylander rentre là, là. Je veux dire, même si Nylander rentre là avec la vitesse, moi, je m'excuse, là, ça, c'est la job du gardien. Le gardien arrête ça, la game finit 1-1, peut-être même que le Canadien score, peut-être même que le Canadien score en overtime. Et c'est là que pour moi, Jake Allen, il est bon, mais il va donner des choses comme ça que Carey Price aurait donné beaucoup moins souvent. Puis en bout de ligne, tu te dis, OK, c'est pas la fin du monde. Ouais, mais c'est le but, là. 80% des games, si tu enlèves les buts dans le filet désert, au-dessus de 80% des games sont gagnés par un but. Mais là, la différence entre un top numéro joueur, le premier plan. Regarde, ça a été ça la série, là. Tampa, là, il se faisait éliminer contre Floride. Là. Quelqu'un qui a regardé la série, là, Floride était meilleur que Tampa. Qui a gagné la série? C'est Vasilevski. Et c'est ce but-là que Vasilevski ne donnait pas. Et c'est énorme parce que tu dis, OK, ah, juste aujourd'hui, non, mais c'est parce qu'après ça, ça va être dans 4 games, ça va être pareil. Dans 6 games, ça va être pareil. Puis après ça, dans 12 games. Puis là, après ça, tu calcules. Oh, à la fin, il te manque 6, 7, 8 points, si c'est pas 12. Bien, c'est ça, une série ou pas de série.
Guy, il y a plusieurs personnes qui te demandent ton appréciation de Christian Dvorak, qui a joué un premier match. Il a joué des matchs pré-saison, mais un premier match officiel en saison régulière dans l'uniforme du Canadien. Martin a parlé tantôt, il a été bon au cercle des mises en jeu. Son trio a été bon hier. C'est quoi ton appréciation de lui?
En anglais, on dit « as advertised ». Ça veut dire que comme on nous l'a vendu finalement. Parce que moi... J'ai hâte de voir l'anguille sous roche. Là. Je vais être franc, là. Je ne comprends pas qu'on laisse aller un joueur comme ça à l'âge de 25 ans. Ça me dépasse. Fait que dans ma tête, quand il y a des choses comme ça, il y a anguille sous roche. L'attitude, c'est le travail, discipline, des problèmes techniques, peu importe. Là. Écoute, je n'en reviens pas. La seule chose que je vois en ce moment, c'est qu'il n'est pas vite. Fait que c'est pas... Il est pas vite, mais il est très intelligent. Il est bon, mais il s'est mis au jeu. Regarde, il a 17 buts l'année passée, si tu compares à Dano. La différence pour moi, évidemment, c'est que Dano avait moins d'offensive, mais Dano était plus rapide. Fait que tu sais, finalement, tu échanges certaines forces, certaines faiblesses. Mais c'est clair qu'il est très intelligent, très bonne vision. Regarde, si tu regardes sur le but de Drouin, la transition a eu lieu. Pourquoi?
C'est lui qui fait le revirement.
Exactement. C'est lui qui fait son repli défensif, finit sa mise en échec. Il y a un revirement à cause de ça, précipite le jeu de l'adversaire. Revirement, Anderson puis Drouin, ça mène à 2-1. Et c'est ce genre de geste-là que des individus comme ça vont faire à répétition que les gens vont pas nécessairement voir. Alors, pour un entraîneur, tu adores ces gars-là. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est un coup fumant de Marc Bergevin? Ça a tout l'air. Mais écoute, je comprends pas encore. 25 ans, des gars comme ça, ça devrait faire partie du cœur de ce que tu essaies de bâtir. Alors à Phoenix, regarde, je sais pas c'est quoi le plan pour le futur, je veux pas juger personne. Tout ce que je sais, c'est que le Canadien a acquéri un bon joueur, mais évidemment, dans la nouvelle Ligue nationale, la priorité avant tout, c'est la vitesse, et il y en a pas beaucoup. Alors est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'ils l'ont laissé aller à Phoenix? Je sais pas, mais c'est clair que c'est un très bon ajout.
Comme tu dis souvent, on n'a pas les données de l'intérieur, mais oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était très, très, très intelligent sur la patinoire. Écoute, avant qu'on revienne à la télé, deux sujets d'actualité. Premièrement, il y en a plusieurs qui en parlent sur le Ongeance, entre autres Léona et quelques autres. D'ailleurs, je vais revenir aux commentaires des gens sur le rds.ca. Un mot sur... c'est un scénario hollywoodien. Là. Il fait son premier match de retour, Jonathan Drouin et Marc. Et tout le monde en a parlé après le match, que ce soit Dvorak, Dominique Ducharme ou Jake Allen. C'est un beau virage, que tu en as connu toi aussi des virages comme ça, là, mais c'est beau de voir Jonathan Drouin marquer à son premier match.
Oui, ça enlève énormément de pression. Parce que tu sais, même si Jonathan revient, tout le monde veut du bien pour lui, puis on a de la sympathie. Tu sais, si ça prend X nombre de matchs avant de marquer, si les matchs sont difficiles, tout ça, bien évidemment, c'est une sympathie que ça se reste tombé assez rapidement, puis ça devient lourd et difficile pour l'individu, que ce soit lui ou que ce soit un autre. Alors, juste de marquer un but en partant de la saison comme ça, tout le monde est content, tout le monde est content pour lui, ça le laisse respirer, donc ça laisse place à penser aux bonnes choses, aux bons moments, pour pouvoir bien performer, c'est clair.
L'autre nouvelle, c'est Brady Tkachuk qui a finalement signé avec les sénateurs d'Ottawa. Un peu bizarre, c'est 7 ans, donc on a réussi à sortir de son emprise des sénateurs un an plus tôt avec un 7 ans, mais au lieu de 8 millions, parce que les sénateurs avaient offert 8 ans, 8 millions par année, il se retrouve avec un 7 ans, 8 millions 214 000. C'est un chiffre bizarre, mais quand même, bonne nouvelle pour les sénateurs.
Oui, c'est crucial. C'était crucial, ça, pour sauver leur saison. Moi, je l'ai eu. C'est pas juste son apport sur la glace. Là. C'est un des meilleurs leaders que moi j'ai vu à son âge. Là-dessus, il me faisait penser à Sidney Crosby, là, jeune. Là. poli avec tout le monde, arrive avant tout le monde, part après tout le monde, ça glace tout le temps la pédale dans le fond, demande, exige autour de lui que les gens soient la pédale dans le fond, il y a une présence, une prestance, donc c'est quelqu'un très courageux dans tout, là, hors glace, sur la glace, mais aussi avec l'influence, les gens veulent le suivre. Enfin, énormément.
Attends une seconde, on va ramener les gens de la télé. On va ramener les gens de la télé, Guy. On était en train de parler Guy... de Brady Tkachuk avec Guy Boucher. Guy, tu l'as eu, tu expliquais là, pour les gens là, qui viennent juste de se joindre à nous, tu expliquais à quel point que c'était beaucoup plus que sur la patinoire qui était le premier arrivé, le premier parti. Donc, une bonne signature, indépendamment du chiffre, une bonne signature, celle de Brady Tkachuk.
Ah, c'est plus qu'une bonne signature. C'est une signature primordiale, c'est une signature déterminante pour pas juste le succès de l'équipe à court terme, évidemment, là, mais... tu sais, tout repose sur le leadership. Alors, si tu enlèves lui là-bas, là, regarde, c'est désastreux parce qu'il est tellement, il a tellement d'impact, il a tellement de courage, il a tellement d'influence. C'est quelqu'un qui est capable de pousser les autres, c'est quelqu'un qui est capable de supporter les autres, c'est quelqu'un qui est capable de tirer les autres. Alors, il y a les trois catégories de leadership dans une seule personne, c'est très rare. Alors, écoute, c'est énorme cette signature-là.
Guy, on va prendre quelques instants pour écouter les commentaires de Dominique Ducharme, David Savard et Jake Evans qui viennent de s'adresser aux médias Buffalo. On va présenter ça aux gens et au retour, on accueille Karel Lemar qui se joint à nous dans notre discussion sur le match Canadien-Leafs présenté hier. On va parler un petit peu du match de ce soir également à Buffalo.
Samuel va être devant le filet. Ouais. Le reste, c'est pareil. S'il joue pas sur un 2-en-2, il va jouer 4. T'sais. C'est la première des choses pour moi. Puis on est tôt dans la saison. Puis on veut tout le monde, on veut qu'il se trempe les pieds tout de suite. T'sais. Donc, non, on a besoin de tout le monde. On l'a dit, puis il fait partie de ça. J'ai confiance en ça dans notre équipe. Je pense qu'en général, hier, tu sais, la ligne Dvorak était très bonne. À part de ça, on peut regarder nos autres trios. On peut dire que c'était un peu 50-50. C'était un peu... sans saveur, je dirais. Donc, on veut que chacun de nos trios amène ce qu'ils ont comme force. Puis hier, à part celui de Vorak, les autres ont été un peu plus discrets. Puis on s'attend, on a besoin de tout le monde. Donc, on s'attend à ce que le trio de Vorak fasse la même chose, mais que nos autres trios en amènent plus. Il faut coacher le match, puis... Il faut évaluer aussi certains soirs comment que les choses vont, puis des fois les match-ups, puis d'être à la maison sur la route, ça peut avoir une influence. Donc, faut soyez prêts à voir n'importe quoi.
Je pense que c'est juste continuer d'être un petit peu plus intense. Je pense qu'on a eu des momentum swing un peu. Je pense qu'il va falloir les contrôler un petit peu mieux. Des fois, c'est des mauvais changements, des choses comme ça qui créent des chances de marquer pour eux. Puis on savait que c'était un club qui allait driver un peu là-dessus. Là. Fait que quand je pense qu'ils ont eu la chance, ils ont mis plusieurs chiffres ensemble qui nous ont repoussé un peu sur nos talons. Fait que, donc, je pense qu'il faut juste mettre un bon 60 minutes ce soir.
I think it does affect your game a lot when, you know, I told Galley and Army it would help if I won some more draws because we'd obviously have some more possession. And I felt like we were kind of chasing it a little bit at times just because, you know, I'm losing the draws. And they're a team that loves having the puck. And, you know, they're a tough team to get the puck away from. So I think that is something that is a big thing for me is being consistent on those draws. And last night obviously struggled a bit and try and forget about the face-off stat from last night and move on.
Si on avait choisi les clips, on n'aurait pas pu choisir mieux. Premièrement, Dominique Ducharme qui raconte ouais. Un peu ce qu'on a dit tantôt, Yannick, quand on a parlé du trio de Vorak qui était excellent. C'était un petit peu plus tiède pour les autres trios. On n'a pas vu le trio de Suzuki, Caulfield, Toffoli. Donc, Dominique Ducharme va dans ce sens-là. David Savard est allé dans le sens de Guy Boucher en disant ils nous ont eu sur des changements, puis on savait que c'était ça qu'ils voulaient faire. Guy en a parlé tantôt. Et Jake Evans a parlé en anglais de mise en jeu. C'est drôle parce que j'en ai parlé ce matin, je pense que c'était avec Karel. les statistiques sont, sont monstrueuses au niveau des mises en jeu, à part Dvorak qui a été bon dans ce domaine-là. En zone offensive, John Tavares, 11 a gagné en 13. Donc, 11 fois sur 13, il a gagné la mise en jeu dans le territoire du Canadien pour commencer avec la rondelle. Puis, collectivement, le Canadien, dans leur zone à eux autres, seulement 5 mises en jeu gagnées sur 21. Salut, Karel, ça va?
Ça va super bien, vous autres, les gars?
Ben oui, ça va bien.
Laisse-moi commencer.
On te lance ça vite,
laisse-moi
hein?
Commencer avec...
C'est une belle enchaînement. Non, j'aime ça parce que... Vas-y, je te laisse aller.
Mais, j'allais dire, laisse-moi commencer avec le coach. 5 en 21 dans ta zone, comme disait Jake Evans, coach, tu vas courir après le puck toute la game, là.
Oui, puis pas juste courir. Tu peux donner des chances de marquer assez immédiates, ce qui fait que ça crée du chaos dans ta zone, ce qui fait que c'est dur de récupérer, l'adversaire prend du momentum, puis ainsi de suite. Alors, c'est pas juste nécessairement le fait que tu as perdu ta mise au jeu, puis tu n'as pas juste la rondelle. C'est qu'il y a un enchaînement d'actions qui fait en sorte que, on le sait très bien que le hockey, c'est une game de momentum. Alors, quand l'adversaire prend de la confiance, prend du momentum, bien évidemment, toi, c'est l'inverse de ton côté défensivement. Écoute, c'est énorme. C'est énorme, les mises au jeu. Écoute, c'est sûr que de l'extérieur, quand tu regardes, tu dis, OK, oh, il y a un gars, mettons, qui est 47 % d'efficacité, puis l'autre est 52, tu dis juste, c'est 5 % d'écart. C'est 5 %-là, là, c'est ça la différence entre les bons gars de centre puis les autres qui sont vraiment pas assez bons. T'sais, si t'es pas 50 % dans la Ligue nationale, là, t'es pas un bon joueur de centre qui prend ses mises au jeu. Là. Alors, ça prend 50 minimum et plus. Alors, tout ce qui est en bas de 50 %, c'est pas adéquat.
Karel, toi, tu peux l'imager aussi avec autre chose, avec des statistiques avancées sur le momentum du match.
Ouais, écoute, Guy, tu touches un point en tant que joueur de l'autre côté. Moi, c'est un peu... ça vient, on dirait, te chercher en dedans qu'il faut que tu cours après la rondelle après que ton joueur de centre l'ait perdu dans le fond, puis tu fais ton approche au porteur, puis tu essaies de récupérer, puis ça te tire du temps. Dans le fond, à pouvoir posséder la rondelle. Puis, j'ai les stats, je ne les ai pas données à Martin, malheureusement, mais écoute, même overall, là, le Canadien, offensivement, s'est fait un petit peu dominer, si on peut le dire. Là. Puis, tu parlais de 5 % là, 60 % à 44 %, c'est assez grand, un peu partout à travers la partie. Puis, Evans a volé un peu mon speech. À dire que sur les face-offs, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse, qu'il fallait qu'on s'ajuste, parce que John Tavares nous a complètement détruit, si je peux dire comme ça, permettez-moi là. Mais ils ont su aussi obtenir quelques bonnes chances de marquer directement après les mises en jeu. Ça revient à ton point, Guy. Toronto est très, je te dirais, il n'y a peut-être pas un focus qui est fait là-dessus, mais le nombre de lancers qu'ils prennent directement après un lancer sont dans les tops dans la Ligue nationale. Fait que c'est quelque chose à garder en tête, surtout quand on joue contre eux.
Oui.
Guy, veux-tu rajouter des choses
que je connaissais pas? Oui, ce qui arrive aussi, c'est que pour avoir dealé avec des centres pendant 25 ans, moi j'étais un centre aussi, je peux te dire que quand tu regardes les mises au jeu de gagnés et perdus, il y en a une énorme partie que c'est pas la faute du centre. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention de dire que le centre a perdu son face-off, parce que sa mise au jeu, le centre va peut-être avoir réussi à empêcher l'adversaire de gagner sa mise au jeu, parce que dépendamment si t'es gaucher, droitier, zone offensive, zone défensive, ça dépend contre qui tu vas, ben des fois, tu sais que tu pourras gagner dans tel angle ou tel angle. Alors, tu vas simplement museler l'adversaire et tu demandes à tes alliés de venir chercher la rondelle. Et c'est très souvent le déterminant. C'est pas le centre. C'est les alliés qui sont lents à venir chercher la rondelle et l'adversaire, le contraire, est rapide à sauter sur ces rondelles-là. Et ça, comme un centre, tu deviens fou, là, je vais le dire comme ça, parce que tu travailles, tu fais ta job, tu l'as soit gagné ou soit tu as réussi à empêcher l'adversaire d'avoir la rondelle. La rondelle est là. Elle est derrière toi ou au moins proche de tes patins à toi, de ton côté. Et puis, c'est l'adversaire qui réussit à être premier sur la rondelle. Mm-hmm. Alors ça fait partie aussi de gagner et de perdre tes mises au jeu. Et c'est pour ça que c'est pas juste le centre qui fait partie de gagner et perdre cette mise au jeu-là.
J'ai envie, si vous voulez, là, j'ai envie de jouer un petit jeu, genre de petite simulation. Là, on va faire, par exemple, si on est dans le bureau d'un entraîneur, Guy dirige dans la Ligue nationale, Karel, t'es la statisticienne en chef de l'équipe, puis là, t'amènes un tableau sur le momentum à ton entraîneur. Fait que je veux que tu présentes le graphique. Si tu parles du momentum qui a été perdu, là, qui n'a jamais été retrouvé par le Canadien. Puis après ça, je veux que le coach commente, lui, le graphique. Et qu'ils nous disent de quelle façon qu'ils peuvent corriger ça. Je ne sais pas si ça vous tente, là, mais je viens de décider ça là. Karel, je te laisse aller.
C'est mon scénario. Je vais peut-être le prendre un peu plus du côté... Je vais m'assimiler statisticienne, mais en même temps un peu dans le feel de la game en même temps, Guy. Fait que je vais essayer de te donner une traductrice de la joueuse aussi en même temps. Mais ce que vous voyez ici, là, c'est vraiment les deux lignes. Dans le fond, la ligne orange qui est Toronto puis la ligne bleue. Qui est le Canadien de Montréal, puis qui est basé strictement sur les chances de marquer, dans le fond, les lancers qui ont été pris, qui sont d'une valeur quand même assez élevée. Là. On s'entend, on appelle ça les grade A chances, B, puis C même qu'on a mis là-dedans. Fait que ce que vous voyez ici, là, il y a une belle marque qui est dotée d'une ligne à 20 minutes. Là. On s'entend, c'est une ligne en pointillé. Le Canadien était en feu, en partie. Puis ça, j'en ai parlé à Martin dès le départ. J'ai trouvé que le Canadien, dès la première mise en jeu, mettait de la pression, était actif, les patins bougeaient, l'énergie était là. On le voit à travers la ligne, il y a eu des lancers, ils ont réussi à, on s'entend, battre les deux power play qu'on voit, les bandes oranges de Toronto ici en début de période. Là, après ça, il y a comme une petite... Ducharme en a parlé aussi. On a dès le deuxième power play, je vous dirais, même le premier peut-être a changé le momentum, que j'aurais pensé nous aurait propulsé peut-être vers l'avant. On a marqué, on est en feu. Puis là, c'est comme si on avait pensé qu'on était assez bon et qu'on a commencé à slacker un peu. Là, le Maple Leaf score à la marque de 10 minutes ici. On voit un petit carré direct à la fin du power play, ce qui nous a littéralement un petit peu coupé les jambes. Puis Guy, comment je le vois, moi, à travers tous ces points-là qu'on voit, puis le graphe qui monte en feu... C'est que là, le Canadien a eu de la difficulté à générer de l'offense, mais a commencé à jouer sur les talons complètement. Donc, on poussait plus la note comme on le faisait en première période. Là, c'est arrivé. La première s'est terminée. On a eu quelques chances vers la fin, mais le forecheck n'était plus vraiment le même. Nos entrées étaient différentes un peu parce que j'ai regardé la game, je m'excuse. Mais quand je vois ça en deuxième période, la ligne bleue, là, regardez ça, elle monte à peine de une valeur dans les tirs au filet. Ce qui vient me dire aussi que le début de la deuxième période était vraiment... Il était pas le fun à vivre en tant que joueur puis à voir en tant que gens à la maison ou nous, Guy. Puis, encore une fois, c'est vraiment... Puis j'en parlais tantôt dans le prochain tableau. Ceci est basé sur l'offensive. Mais j'en parle souvent, puis ça fait un petit bout. Puis Guy, on en parle ensemble. Ça sort toujours de comment on forecheck, comment on est au devant de l'adversaire dans un côté défensif, comment on se positionne, comment on est capable de faire la transition pour réattaquer. Je te dirais qu'en fin de première et puis deuxième, puis on a essayé de revenir, c'était difficile. On ne jouait plus, on n'avait plus notre même identité. Identité de fonceur, puis de...
Karel.
Ouais, vas-y.
Avant que Guy réponde, là, si on peut juste remettre le tableau, je vais rajouter quelque chose. 2 secondes, puis Guy, je te laisse répondre. OK? Bon. On va remettre le tableau que Karel a monté sur le momentum. Là. Les mises en jeu en première période, le Canadien a gagné 61% des mises en jeu globales. 61. Ça, c'est le Canadien début de match. En deuxième période, regarde la ligne plate, le Canadien 39% court après la rondelle tout le long. Vas-y, Guy.
J'aime ça, Martin.
Mais moi, quand je regarde ça, la première chose qui me vient en tête, là, c'est que c'est mon fameux triangle. Tu as l'individu qui est lui-même côté rationnel, tu as côté émotionnel, mais tu as aussi l'autre côté du triangle qui est le côté circonstanciel. Alors, ce qui fait que comme groupe, comme individu, tu es régi par tout ça en même temps. Alors, pour moi, quand je vois ça, je vois une tendance très normale dans le sens que c'est une question d'activation, une question émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est ton premier match d'année, les deux équipes sont nerveuses. Par contre, l'équipe la plus nerveuse, celle qui a probablement plus de difficultés à gérer sa nervosité en début de match, c'est celle à la maison. Parce que tu es déjà fébrile. Ça fait longtemps, ça fait un bout de temps. Tu n'as pas joué vraiment des vrais matchs jusqu'à maintenant. Là, à toutes les fois que tu commences quelque chose de nouveau dans la vie, c'est normal. Tu as de la nervosité. Même si elle est positive, tu as quand même de la nervosité. Alors, l'équipe qui est à la maison, devant ses partisans, déjà est trop activée avant même que ça commence. Le match commence, puis l'adversaire, lui, c'est le contraire, il n'est pas chez lui. C'est le début d'année, son activation probablement à la bonne place. Alors, on tombe plus dans l'anxiété chez l'individu qui est trop fébrile. Et puis, pour moi, c'est clair. Si j'avais eu à gager, je me serais dit Toronto va avoir plus de misère au début. En plus que c'est une équipe qui a énormément de pression cette année et qui a perdu contre le Canadien. Le Canadien, le contraire, plus confiant, sur la route. Pas besoin de faire ce qu'on a dit. On dit toujours ça là, quand on coach puis les joueurs, c'est que sur la route, t'as pas besoin de faire un show. À la maison, inconsciemment, tu te dis pas je vais faire un show, mais tu veux faire plaisir à tes partisans, c'est normal. Mais sur la route, c'est pour ça qu'on dit un match plate sur la route. Mais c'est pas une question de match plate, c'est que tu te concentres à faire les choses de base bien, et puis tu te laisses respirer, puis tu essaies d'être constant durant ton match. Alors, ce que je vois, c'est une activation du Canadien qui est à la bonne place, donc qui fait des bonnes choses, qui respire, mais qui est quand même bien activé, tandis que l'adversaire qui fige un peu, qui est nerveux. Alors, tranquillement, à un moment donné, quand le Canadien, finalement, avec le temps, marque un but, tout ça, ben son activation, pour moi, c'est pas qu'elle a diminué nécessairement. Et c'est ça que je veux dire. Moi, quand je vois ce tableau-là, puis que j'ai regardé le match, et je suis content de voir les statistiques que Carrel a fait parce que ça concorde à ce que moi j'ai vu. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est Toronto qui a pris une coche. Mm-hmm. Pas nécessairement que le Canadien a perdu une coche. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je regarde l'engagement du Canadien devant le filet offensivement, elle est pareille pour moi tout le match. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur des points de mise au jeu. Et tandis que Toronto, tout d'un coup, whoop, à un moment donné, écoute, c'était, il chargeait le filet, il était deux, il était trois, en avantage numérique, à 5 contre 5. Les joueurs de talent, les joueurs moins de talent, les grinders, tout ça, là, écoute, c'était phénoménal. Même, on va en montrer des clips à Hockey 360 ce soir. Il y avait une énorme différence entre l'engagement physique à l'intérieur des points de mise au jeu du Canadien et celui de Toronto. Mais ça, c'était tout le long du match. Mais Toronto, pour le Canadien, je parle, est resté pareil, mais Toronto a vraiment pris une coche. Alors aussi, quand Toronto s'est fait scorer, ben, il y a plus d'urgence de ce côté-là. Alors pour moi, c'est une question d'activation qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une équipe qui a dépassé l'autre en termes d'urgence, donc en termes d'action d'urgence.
Hey Guy, c'était intéressant, puis les gens ont apprécié, je pense, parce que là, j'ai allé voir les commentaires, puis les gens ont l'impression de s'être retrouvés dans un bureau d'entraîneur. C'est un peu ça que je voulais faire. Et Carrel, il y a beaucoup de gens qui commentent également ton graphique, parce que c'est vrai que ça image bien le match d'hier, donc il y a beaucoup de réactions. Là, je veux remercier Guy, je veux le libérer. Le coach a assez travaillé, il va aller se reposer. Puis nous autres, Carrel, on va continuer ensemble, parce qu'on a d'autres tableaux et d'autres stats. Salut, coach!
Ouais, ben avant, là, je le dis publiquement, faut vous me ramener avec Carrel encore, là, parce que. Puis là, la
on
vérité.
On va de ça.
Je vais être franc, si elle travaillait dans mon staff, là, j'aurais pris son graphique, puis je l'aurais montré à l'équipe avec des points bien précis. Parce que, tu sais, t'as des gens qui sont visuels, puis t'en as. Ben, visuels, oui, puis il y en a d'autres qui sont auditifs, tout ça, mais en réalité, moi, il y a trois groupes. C'est des gens qui sont rationnels. Les gens qui sont plus émotionnels, mais il y a un autre groupe, c'est les gens qui fonctionnent par image. Ils ne fonctionnent pas beaucoup par le rationnel puis l'émotionnel. Et tu vas chercher un autre groupe avec du visuel. Alors, comme ça, les joueurs, ça va rester ça. Une image comme ça, quand tu ne t'éternises pas sur l'explication, tu vas vraiment être capable d'aller chercher d'autres individus dans ton vestiaire. Alors, merci, Carrel.
Merci à toi.
Ce que ça veut dire, Carrel, c'est que McGee retourne dans la Ligue nationale, tu vas te barrer un offre d'un job. C'est peut-être ça que ça veut dire. Carrel, je veux juste
pas
rapidement...
Je
n'ai
pas gardé ma stats de face-off.
Écoute, Jean-Michel Laliberté... Jean-Michel Laliberté disait « Je ne suis pas un fan des stats avancées, mais là, je vais vous dire une chose avec Carrel, c'est vraiment intéressant et je comprends. » Donc ça, je trouve ça le fun. Manon Denis dit « J'adore ta manière de nous exposer les faits du match d'hier, Carrel. On voit mieux le match, donc c'est très apprécié. » Là, je veux te lancer sur un autre tableau que tu nous as préparé, c'est les chances de marquer à force égale.
Puis je vais revenir après ça au point de Guy parce que j'ai vraiment apprécié son but, mais ça vient lier tout un peu ce qui s'est passé.
Tu peux y aller, vas-y.
dans le fond, j'ai manqué un peu son début d'interview, moi, quand je suis rentrée avec vous autres, les gars, mais il y avait un point que je voulais faire aujourd'hui, puis même ce tableau-là nous l'offre un petit peu à travers ça. Puis on s'entend, les statistiques démontrent vraiment un côté. Après ça, on fait le test visuel en tant que coach, puis après ça, on se met dans la peau un peu du joueur, comme il l'a dit. Puis j'ai trouvé beaucoup que Toronto était prêt à payer le prix hier. Ça, c'est quelque chose que je vulgarise ici, mais j'ai trouvé que l'intensité que même Guy a dit à se rentrer dans l'intérieur des points de mise en jeu qu'on appelle la zone dangereuse, l'enclave en tant que telle, le Canadien a pris beaucoup de lancers, puis on va le voir avec les chances de marquer, avec le tableau qui va suivre. Mais les chances venaient de l'extérieur, les lancers venaient un peu plus de l'extérieur. La note du graphique que je vous ai démontré, c'est les valeurs de lancer qui ont été prises. Quand la ligne a monté plus haut, c'est que le lancer était plus dangereux. Dans le fond, il y avait une valeur qui a eu une passe qui s'est faite à travers l'enclave ou un lancer qui est venu d'intérieur des points de mise en jeu. Puis je trouve que Guy amène un bon point, c'est que Toronto, oui, a élevé la note, puis oui, il s'est mis dans la zone payante. C'est ça qui est important de voir. Puis le tableau, je ne sais pas si on le voit en ce moment ou si on veut le mettre.
On va le mettre, là, oui. Il est là.
Parfait. C'est des chances,
de marquer à force égale, oui.
On regarde ça en gros. Montréal et Toronto n'ont pas fait nécessairement extrêmement différent l'un de l'autre. Puis là, ce que j'ai essayé de démontrer aussi, c'est que où ça a tombé dans un peu l'espèce de point déterminant que Toronto a élevé sa note et que le Canadien est resté de la même base, c'est en deuxième période. En tout et total, là, le Canadien a eu 29 chances de marquer, 28 pour les Toronto, 7 en zone dangereuse, 9 pour Toronto, c'est rendu un peu partout. Mais vraiment la grosse chose là, qui s'est passée, les chances de marquer en zone dangereuse en deuxième période, on a vu 5 pour Toronto, à peine une pour le Canadien. Puis le recouvrement de rondelles en zone offensive a été totalement dominé par Toronto, si vous le voyez ici. Là. De ouais. là, le pourquoi
ouais. on 50%. Était dans la...
Écoute, on était dans pour Toronto, là, ils étaient dans la zone payante, ils acharnaient les défenseurs, ils ont fatigué nos 10 autres défenseurs, ils ont fatigué nos joueurs dans la zone défensive parce qu'ils récupéraient la rondelle, parce qu'ils étaient capables de créer des chances de marquer qui étaient un peu plus intenses ou plus toujours dans la zone A ou B qu'on appelle nous. Donc, des valeurs qui sont un peu plus fortes que la zone C, que le Canadien se retrouvait beaucoup à travers la partie quand on les décortique au complet. Donc, ce que je veux dire, c'est que non seulement... Ouais, vas-y.
Ce que j'allais dire, je me trompe-tu si... Moi, la stat, ce qui me fascine là-dessus, oui, la deuxième période, on le savait déjà avec l'autre tableau, mais le recouvrement de rondelles en zone offensive, pour moi, me parle beaucoup. Exact. Ça veut dire qu'une fois sur deux, c'est les Leafs qui la ramassent puis qui continuent à appliquer une pression. Tandis que les Canadiens, trop souvent, c'est ce qu'on appelle un one and done. On rentre, on prend une chance de marquer ou on prend une chance au filet, puis après ça, on ressort, court après la rondelle. Exact. Tandis que les Leafs vont cycler la rondelle, vont revenir au filet et les présences s'allongent. Encore une fois, hier, Romanov, il y en a eu des longs, Chiarot, Petrie. Et c'est comme ça que le Canadien donne des meilleures chances de marquer parce qu'ils sont brûlés dans leur territoire.
Exactement. C'est exactement ça. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que non seulement c'est un sur deux, mais en plus de ça, les lancers que nous, on prenait, Campbell, il s'arrêtait facile puis il était capable de garder le rebound parce qu'il n'y avait aucune personne qui s'en venait au filet avec de la vitesse ou qui rentrait dans les points de mise en jeu, comme on l'a dit, pour le stresser un peu. Fait que c'était facile pour lui de faire un « OK, je l'arrête, one and done, that's it ». Fait que tu sais, il y a un full challenger, le gardien aussi. Oui, le lancer peut venir d'une belle angle, mais de l'autre côté, il faut qu'on soit capable de rentrer puis d'être acharné puis de vouloir récupérer ces rondelles-là, comme tu l'as dit, Martin. C'est exactement ça que je voulais faire découvrir à travers ça aussi. Nos chances étaient juste
très intéressant. Pas
assez intenses devant le filet.
Oui, non, c'est très bon. D'ailleurs, tu as d'autres tableaux. Les gens là apprécient beaucoup sur le On Jase, sur la page officielle d'On Jase, beaucoup de bons commentaires. Venez nous rejoindre sur le web, ça va se poursuivre avec Carey qui a un autre tableau. Dites salut à vos mères, puis il y a un autre match ce soir sur RDS. Bye, man. Carey, c'est important de dire bonjour à sa mère.
Oui, bonjour, maman.
Salut la mienne aussi.
Carel, Carel, on va continuer de parler du match de ce soir. Puis tu l'as montré, tu sais, c'est pas tout acheté aux poubelles. Là. Le Canadien, c'est un premier match de saison, c'était sur la route, etc. Mais on est capable d'identifier, puis c'est ce que j'aime, tu sais. Je veux pas qu'on fasse ah, tel était pourri, tel était pourri, mais d'expliquer les choses, puis c'est ça que tu fais avec nous autres.
Ouais, de comprendre,
ben oui.
Bien, un autre point aussi là-dessus, c'est que faut pas se dire... Guy a touché exactement le point. C'est la première partie de la saison. Hein? On s'entend, les défenseurs, les duos vont changer peut-être, ils vont peut-être rester, les lignes vont faire la même chose. Mais il y a vraiment du bon qui est ressorti aussi à travers la partie. Puis nos gardiens, je veux dire, Jake Allen, on s'entend, Guy a parlé du deuxième filet puis du deuxième but. J'étais un petit peu d'accord avec lui, sauf qu'il a quand même fait sa job. Puis avant qu'on rentre avec les gardiens puis avec le prochain tableau, je voulais aussi qu'on démontre le côté que, tu sais, le Canadien a été noté l'année passée pour avoir, dans le fond, un peu changé leur système, mais pour avoir un contrôle sur leurs entrées de zone. Puis ça, j'ai trouvé que hier, non seulement, même avec le momentum qui était peut-être pas là, ces choses-là, le contrôle était là. Puis quand on regarde de l'autre côté, les tirs ont été là, les deux gars ont fait leur job. On s'entend, là, si on regarde ça ici avec Jake Allen, il a peut-être manqué le but, comme je en parlais, mais il a quand même sauvé un but et 92, dans le fond, de toutes les lancers qu'il aurait dû laisser dans le net. Fait que les gars, dans le fond, Jake, là, aurait dû, le but attendu qu'on s'attendait à ce qu'il se fasse carré avec les lancers qui ont fait face, était de 3.9. C'est quasiment 4 filets. Ça, dans le fond, là, il nous a sauvés. On s'attendait à ce qu'il y ait ça parce qu'on s'attendait que les Maple Leafs l'attaquent de toutes parts, de tous côtés. C'est un peu ce qui s'est produit hier aussi à travers la partie parce qu'il a fait face à 32 tirs. Les tirs dans le bas de l'enclave, c'est lui qui a été le plus challengé comparé avec Campbell. Mais
ouais, c'est ça.
C'est dans un petit moment. Puis ça, je pense que Guy a touché là-dessus tantôt en tant que coach, que dans ce shot-là de Nylander, oui, il a fait le fake d'un slap shot. Et après ça, il a redirigé avec un petit snapshot en haut short side. Je ne sais pas si Price aurait laissé ça, admettons, si je dis ça comme ça. Sauf que de l'autre côté, c'est sa première game à lui aussi. Il s'en vient. On a Nylander qui a joué un de ses meilleurs matchs, je pense, depuis un bon bout. On s'entend que c'est sa première partie aussi, puis il était sûrement excité.
Il joue tout le temps bien contre le Canadien, Nylander. C'est incroyable. C'est il y a le numéro du Canadien, lui, c'est fou, là.
C'est vrai. Puis hier, sa ligne, je m'excuse, mais était une des meilleures aussi à travers ça. C'est vraiment. Il a perdu John Tavares, qui ont monté en haut avec Marner pour aller aider au centre, vu que Matthews ne jouait pas. Puis le gars était quand même là. Il dominait. C'est eux qui ont créé le plus d'action, comme Martin en parlait un peu, du cycle qui vient chercher le carrousel, je pense qu'on dit en français. Donc, qui vient chercher carousel des chances
offensif. De
marquer. Oui, le carrousel offensif qui vient chercher des chances de marquer après. Mais tu sais, c'est pas n'importe qui a pris ce lancer-là non plus. Là. Je veux dire, ce shot-là était placé. Puis oui, elle venait peut-être de l'extérieur du dot, mais il était là cette soirée-là, en plus des peut-être poteaux qui l'ont aidé ici et là à quelques occasions. Mais le Canadien a fait sa job. Il manquait juste un peu d'urgence, que ce soit offensif ou défensif, puis un peu de physicalité, moi, j'ai trouvé. L'intensité d'aller finir les checks, l'intensité d'aller gagner ces batailles-là, qu'on parlait, là, 50 % dans la zone offensive. Mais ça, ça a été partout sur les longs des bandes puis à travers la zone défensive aussi. Là. C'est quelque chose qui n'était pas nécessairement ce qu'on faisait dans les séries l'an dernier.
Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Karel, je sais que la semaine prochaine, tu reviens avec nous mardi. Là, le Canadien va jouer, joue ce soir à Montembeau, va jouer samedi contre les Rangers, ça va être Allen, puis joue mardi. Donc, en principe, mardi, Montembeau n'aura pas joué d'autres matchs. Si jamais tu as quelques stats intéressantes sur Montembeau qu'on pourrait présenter mardi, ça serait le fun. Je te donne une petite mission pour le match de ce soir.
Me prends d'avance. Je vais regarder ça. Sans problème, oui. C'est le fun de
ça,
voir.
Ça peut être sûr. Le fun.
À travers les chiffres.
Ben oui, parce que ça va être intéressant. Ben, tout à fait. Tu sais, on dit qu'il est bon, qu'il voit un bel avenir et tout ça. Donc, ça va être intéressant de voir ces chiffres-là. Écoute, Karel, encore une fois, tu as fait un grand coup de circuit, là, tout le monde. Je lis les commentaires Facebook, partout. Là. Martin, ça doit être la même chose sur RDS.ca. Unanime. Tout le monde apprécie ton travail.
Non seulement je veux en lire, peut-être que Guy est encore braché, mais en tout cas, il me texte, il confirme qu'il veut être de retour sur le même show que toi. Donc, j'ai dit, c'est beau, je m'en occupe, je vais faire ça.
J'aime ça.
Et là, ça ne sera pas mardi prochain parce qu'il n'est pas disponible.
Ah, il va peut-être changer ses dispo. Mais, ouais, écoute, tellement de bons commentaires pour toi, Karel. Si c'est... C'est un peu ça qu'on veut faire avec Ongeance. On veut amener les choses des fois ailleurs avec nos intervenants. Éric Lachance, j'adore le travail de Guy et Carrel et j'aime bien la nuance que Guy apporte avec les circonstances, car les stats avancées ne prennent pas toujours les circonstances en considération. Utiliser de cette façon, c'est sûrement un bon outil pour les entraîneurs. Philippe Pellegrou, j'aime bien Carrel. Carrel a raison. On comprend que Philippe est en couple et qu'il sait que c'est toujours madame qui a raison. J'aime beaucoup entendre les analyses de Guy, très intéressant. Miguel, j'aime vraiment cet échange. D'un côté, les stats infaillibles et de l'autre, le fait intangible qui est expliqué, qui explique dans le tableau. Il y a même Léona qui dit « Intéressant le point de vue. Votre émission est différente, est diversifiée et c'est plaisant. On en apprend toujours. C'est bon pour nous. » Puis j'ai répondu à ça. C'est bon pour nous aussi d'en apprendre comme ça. Donc, Carrel, un gros bravo.
Bon, merci les gars, puis j'adore ça les deux nuances avec Guy aussi, puis c'est un peu mon but de, en vous présentant les statistiques, c'est de pas nécessairement les haïr, parce que il y a pas trop longtemps, je les avais pas non plus, mais là j'ai appris à les aimer, puis on a beaucoup de contexte, fait que c'est important de le lire de la bonne façon, puis de les utiliser de la bonne façon aussi, j'aime ça.
Je vais parler, Carrel, au gars qui fait les horaires, là, puis je vais essayer de te mettre avec Guy de temps en temps. Là. Je vais le convaincre. Je vais travailler fort là-dessus.
C'est lui. C'est lui, le gars qui fait les horaires.
C'est bon, merci les gars. Bye-bye.
Salut, Carrel. Bye-bye. Ouais, encore une fois, là, ça a été un vrai bonheur. Martin, on va y aller avec les trois étoiles, si tu le veux bien, de l'émission d'aujourd'hui avec nos gens qui commandent sur les différentes plateformes.
Oui, absolument. Excuse-moi, j'étais encore pris dans les commentaires déjà. La troisième étoile, the third star du RDS.ca. On vient de lire son commentaire. Éric Lachance!
La deuxième étoile, the second star du Facebook. On jase Cédric Descoteaux.
Et la première étoile, the first star, Jérémy Veilleux! Veilleux!
Encore une fois, un gros merci à toute notre équipe de production en régie à RDS, Valérie à la réalisation, mise en ondes, vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre, Mathieu aux médias sociaux également, et merci à Guy et Carrel. Demain, Benoît Brunet et Bruno Gervais seront avec nous pour revenir sur le match canadien-sabre ce soir, mon cher.
Oui, puis les gens, là, ça continue à écrire pour Carrel, parce qu'on voyait là, qu'on lisait les commentaires pour Carrel. Là. André Legault qui dit « Carrel, tu reviens à l'émission. » Philippe, Antoine, Laurent, Éric Beauchamp, bref. Excusez-moi le terme anglophone, là, je vais faire un screenshot, puis je vais lui envoyer. Je suis convaincu que ça va lui faire plaisir. Mais, merci à la communauté d'Ongeance, qui est tout le temps exceptionnelle.
On peut juste dire aux gens, là, soyez pas inquiètes, Carrel, l'an passé, quand elle est venue, après ça, on s'est entendu avec elle. Elle va être avec nous une fois par semaine, tout au long de la saison. Elle fait partie de notre cohorte de panélistes réguliers à l'émission. Donc, les gens, soyez pas inquiètes, Carrel est avec nous.
On va demander une nouvelle photo d'équipe, puis vous allez voir, Carrel est là. On va la mettre en avant nous autres, parce qu'on va mettre les femmes en avant. Puis on va se mettre, moi et Yannick, en arrière d'elle, puis on va mettre nos collaborateurs en arrière. Mais oui, Carrel, on l'a signé à long terme. Donc, inquiétez-vous pas, elle sera de retour. D'ailleurs, elle sera là mardi avec Marc Denis. Donc, je sais que Marc aussi aime beaucoup les stats avancées. Donc, manquez pas ça. Bon match ce soir. On va en reparler demain. C'est un bon début de saison. Tu sais, le Canadien a quand même juste perdu 2-1. On se rend compte avec Guy, avec Carrel, que c'est à pas grand-chose proche. Là. Ce match-là aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Fait que ce soir, c'est à RDS. Manquez pas ça. Émission d'avant-match, ça commence à 18h15 ou 18h avec la gang de hockey 360. Donc, manquez pas ça.
Excellent. On se voit demain, Martin. Bye!
Bye! Salut, demain!